Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Sylvain Latuf. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de la Chine, alors que le coronavirus continue de faire des victimes, plus de 2000 en Chine continentale. On va se pencher ce matin sur ses conséquences diplomatiques, politiques, sociales. En interne, le régime essaye de faire face et de répondre aux critiques, disant qu'il avait réagi trop tardivement. Cette semaine, on a appris que la session plénière annuelle du Parlement devrait être annulé. Certains dirigeants des régions les plus touchées ont même été remplacés. Autant de décisions censées convaincre l'opinion que les autorités centrales sont désormais entièrement concentrées sur ce défi. Sur le plan extérieur aussi, ça bouge, puisque les tensions montent notamment avec Washington, avec cette expulsion de journalistes du Wall Street Journal suite à une tribune sur la crise sanitaire jugée raciste par Pékin. Alors jusqu'où le Parti communiste chinois pourrait-il être fragilisé par cette crise sanitaire qui se diffuse dans les champs politiques, économiques, sociaux, diplomatiques? En quoi remet-elle en cause aussi peut-être ce contrat social actuel entre l'État et ses citoyens? Et Xi Jinping, présenté parfois comme le nouveau timonier tant il a concentré les pouvoirs, eh bien pourrait-il Xi Jinping se voir remis en cause à l'intérieur même du parti? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin Alice Ekman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes une spécialiste de la Chine, analyste responsable de l'Asie à l'European Union Institute for Security Studies, et vous signez très récemment Rouge vif, l'idéal communiste chinois aux éditions de l'Observatoire. Également avec nous Jean-Louis Roca, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, vous êtes vous sociologue, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI. On évoquera évidemment ces questions chinoises dans quelques instants. D'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Hongrie, c'est Antoine Malo. Bonjour Antoine Malo.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là, vous êtes grand reporter au JDD. Alors, on va parler ensemble de la Hongrie, puisque dimanche dernier, Viktor Orban, son Premier ministre, prononçait son discours sur l'état de l'Union. C'est donc son 10e depuis son retour en 2010. Le président s'est attaché à mettre la Hongrie avant toute chose, à fustiger l'Europe comme souvent, à dénoncer les attaques de l'Occident à son encontre, d'autant que cette année, c'est une année particulière, hein. 2020, c'est le centenaire du traité du Trianon qui, on s'en souvient, au sortir de la Première Guerre mondiale, avait largement amputé, en tout cas amputé, une très large part de son territoire. Un épisode vécu évidemment comme un traumatisme et qui continue de nourrir le nationalisme magyar, on y reviendra. Alors, on va d'abord peut-être commencer, Antoine Malo, avec ce fameux discours à la Nation, dimanche dernier. Il y a une annonce sur laquelle on va se pencher, depuis laquelle on va commencer à regarder les choses, qui est celle qui concerne les programmes scolaires. Qu'est-ce qui a été annoncé par Viktor Orban, Antoine Malo, s'agissant de cette réforme et comment il veut bouleverser finalement ce qu'on apprend à nos petites têtes blondes du côté de la Hongrie?
Alors c'est pas Viktor Orban qui a annoncé, puisque ça c'est l'annonce a été faite le 31 janvier.
Mais il l'a relayé dans son discours à la Nation.
Tout à fait.
Et c'est lui qui en est à l'origine, au sens où c'est lui qui l'a initié.
Effectivement. Ouais. Deux choses principales, outre les nouvelles matières qui peuvent apparaître, outre une surcharge de travail, disent les associations de profs. D'une part, dans les cours de littérature hongroise, il y a 126 auteurs qui sont au programme pour les lycéens. Certains optionnels, d'autres obligatoires, et dans cette catégorie d'obligatoires sont passés trois auteurs très polémiques, à savoir un qui était un soutien de Mussolini et deux autres, Vösch et Nire, qui, alors excusez-moi pour la prononciation, je suis pas magyarophone, mais qui étaient clairement antisémites et pour l'un membre des Croix Fléchées, un mouvement pro-nazi hongrois.
Alors au-delà du fait qu'il y a effectivement un certain nombre d'auteurs dans ces programmes qui sont voilà, dont le passé est assez trouble, c'est pour le moins. Est-ce que on peut parler de révisionnisme dans ces nouveaux programmes scolaires, ou est-ce que c'est allé un peu loin?
C'est peut-être allé un peu loin, mais on y tend en tout cas. Enfin, parce qu'il y a aussi un autre pan qui est abordé par ces nouveaux programmes, c'est l'histoire, avec Dixit, le programme officiel, une vision positive et positif de l'histoire en fait. Et donc l'idée c'est d'introduire le fait que on parle des victoires et non plus des défaites de la Hongrie. Donc en gros, c'est présenter la Hongrie sous un jour positif, sous un jour victorieux, glorieux.
Et notamment s'agissant de la Seconde Guerre mondiale, on l'imagine.
Effectivement, avec la période de l'entre-deux-guerres, alors qui est présentée par les autorités comme une période de redressement après le traité de Trianon, parce que la Hongrie était effectivement amputée de deux tiers de son territoire. Donc l'idée de dire, regardez, la période Horthy correspond à un redressement, il a redressé le pays alors qu'on était à terre, etc. Et donc il ne parle pas de la fin de cette période qui est la déportation des centaines de milliers de Juifs.
Dans les années 40. On reviendra peut-être sur ce moment-là, mais si on reste sur les programmes scolaires, ce que dit aujourd'hui le gouvernement, c'est qu'il a ouvert une large discussion, qu'il a sollicité des dizaines et des dizaines d'experts, d'universitaires, etc., etc., de spécialistes de l'apprentissage, de l'école, et que d'une certaine manière, tout ça est le fruit d'un large consensus.
Alors, c'était sans doute vrai au début. Il y a eu deux phases, en fait, dans cette préparation du programme. La première, où il y a eu des consultations, et alors, on est sorti une ébauche de programme qui a été jugée pas assez patriote, pas assez chrétienne aussi. Et ensuite, ça s'est fait sous la houlette d'un historien, auteur, qui s'appelle Monsieur Takaro, et qui est un homme proche des milieux d'extrême droite, qui a été décoré par Orban il y a quelques années. Et donc, c'est lui qui a mené l'élaboration de ces programmes. Mmh. Et de façon assez obscure, nous disent en tout cas les associations de profs.
Mmh. Il y a Antoine Malo, et vous en avez rencontré, des professeurs qui s'opposent justement à ce nouveau programme. Comment s'illustre cette opposition et concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement s'opposer?
Alors, c'est assez compliqué. Les programmes ont pas encore... Ils seront introduits en septembre pour trois classes, les CP, CM2 et 3e, me semble-t-il. Mais déjà, ils sont obligés, certains profs, tous les profs sont obligés de travailler à partir des manuels d'État. Avant, il y avait des manuels privés, des manuels d'État. Maintenant, il n'y a plus que des manuels d'État. Me disait une prof, ils sont truffés d'erreurs. Donc, cette prof prépare ses propres cours sur PowerPoint, tous ses cours. Donc c'est une surcharge de travail énorme, évidemment. Et elle le fait alors avec le blanc-seing de son proviseur, parce qu'elle est en lycée. C'est pas le cas pour tous les autres profs. Certains sont obligés soit de se conformer au manuel et de se taire, soit de quitter leur emploi, quoi.
Mais que risquent les récalcitrants?
Alors, on a demandé au ministère des Ressources humaines, qui est le ministère qui regroupe l'éducation, le sport, etc. Ils nous ont dit que, comme en France, les profs étaient libres de donner cours et comme ils le voulaient, mais que dans le même temps, il fallait qu'ils se conforment à un cadre qui avait été défini par le ministère. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions, mais en fait, c'est plutôt implicite. C'est-à-dire que les profs savent que si ils dérogent à la règle, forcément, ils vont avoir des problèmes.
Alors, il y a évidemment la dimension de guerre mémorielle, de guerre culturelle, mais il y a aussi peut-être une stratégie politique derrière tout ça, Antoine Malo. C'est en tout cas ce que vous explique un politologue hongrois qui s'appelle Daniel Mikes. Il vous dit, alors certes, évidemment, tout cela s'inscrit dans une stratégie après le corsetage des médias, celui de la constitution, de l'économie, vient donc ce temps de l'hégémonie culturelle, mais il y a aussi peut-être une visée plus politicienne, à savoir qui consiste à marginaliser, c'est ce qu'il vous dit en tout cas, l'aile la plus modérée du Fidesz, quel parti de Viktor Orban.
Ouais, tout à fait. Et c'est d'imposer. Alors tout ça participe à une stratégie à la fois nationale, européenne, mais c'est d'imposer cette idéologie, alors chrétienne et ultra conservatrice. Et donc de faire taire effectivement ces voix qui sont un peu dissonantes au sein du parti au pouvoir.
Enfin, ça peut fonctionner. Elle représente quoi justement cette aile-là?
Elle est marginalisée aujourd'hui. Elle est marginalisée.
Vous êtes allé aussi, Antoine Malo, à l'Université d'Europe centrale de Budapest, qui a été fondée par George Soros, qui est ce milliardaire américain d'origine hongroise et qui est la bête noire de Viktor Orban. Alors aujourd'hui, il y a une bonne partie de cette faculté qui a été carrément délocalisée du côté de Vienne, mais vous avez rencontré un certain nombre de personnes, et notamment un enseignant en sciences de l'éducation, Peter Rado, en l'occurrence. Ce qu'il vous dit, lui, c'est que Orban a déjà finalement gagné la bataille culturelle, et en même temps que... il y a quand même des fragilités dans ce modèle Orban. C'est quoi ces fragilités dans ce modèle Orban?
Alors, lui dit, en tout cas, c'est son point de vue, économiquement, il reste très dépendant de l'économie européenne. Ils sont très arrimés à l'économie allemande notamment. Donc ça, c'est une de ses fragilités. Deuxième fragilité, c'est que le parti vieillit, en tout cas ses cadres vieillissent. Orban, ça fait 30 ans qu'il est dans la politique. Et donc, chez les jeunes, notamment, il y a une désaffection du parti au pouvoir. Et notamment lors des élections, dernières élections locales, on a vu que les jeunes, effectivement, s'étaient éloignés du Fidesz.
Alors, il y a un autre élément, Antoine Malo, qu'on a pu noter dans le discours sur l'état de l'Union de Viktor Orban, c'est qu'il y avait une teinte écologique, ce qui n'est pas si fréquent que ça chez Viktor Orban. Alors, comment comprendre? Est-ce qu'il s'est découvert une fibre écologique? Est-ce que c'est un appel du pied, justement, aux forces politiques écologiques, justement, pour peut-être siphonner aussi leurs électeurs qui monteraient en puissance? Enfin, comment comprendre tout ça?
Je pense qu'on est plus là. Orban, il n'a pas vraiment de conviction. Il a commencé libéral dans une université de Soros. Puis il a tourné illibéral, puis ultra-conservateur. Donc là, il verdit son programme parce que c'est dans l'air du temps. Pour capter, je pense, une partie de l'électorat jeune aussi, parce que c'est là que ça marche. Parce que c'est a priori un vrai souci de Orban. Il a que 56 ans, donc il a envie de rester encore quelques années. Donc il lui faut renouveler son électorat.
Mais est-ce que ça va être seulement de la rhétorique, ou est-ce qu'on pourrait avoir des actes politiques forts, justement, dans ce sens?
L'avenir le dira. Ouais. Là, pour le coup, j'ai...
Alors peut-être, pour finir, Antoine Malo, la question des tensions avec l'Union européenne, parce que, et en particulier avec le Parti Populaire Européen, qui sont très fortes depuis des mois. On se souvient qu'il avait suspendu ce PPE, le Fidesz, en mars dernier, sans pour autant exclure les députés du Fidesz. De son côté, Orban attaque très régulièrement le Parti Populaire Européen, qu'il considère comme carrément dépassé. Qu'est-ce qu'il veut faire, Orban, avec ce Parti Populaire Européen? Est-ce qu'il veut le transformer? Est-ce qu'il veut le dépasser par sa droite et reconstruire une véritable droite conservatrice européenne? C'est quoi son objectif?
Il y a deux théories qui ne s'opposent pas, mais qui sont pas tout à fait la même. Il y a soit sa volonté de rester effectivement en PPE, parce que c'est le groupe qui pèse le plus et il faut y rester, mais effectivement lui donner une claire inclinaison démocrate chrétien, c'est son dada. Donc il voit bien que les partis classiques de droite type CDU en Allemagne ou en France s'affaissent, et lui dit c'est parce que idéologiquement on a perdu nos valeurs, il faut revenir aux valeurs chrétiennes, aux valeurs qui sont les nôtres. Et il y a la deuxième théorie qui est peut-être moins valable, mais de sortir du PPE pour fonder son propre mouvement qui agrégerait d'autres mouvements type le PiS polonais, et d'être un concurrent clair pour les chrétiens démocrates classiques européens.
Et vous pensez que ça sera laquelle de cette option? Est-ce que vous pensez que le divorce entre le Fidesz et le PPE va finir par arriver? Est-ce qu'on peut continuer cette cohabitation forcée?
Non, je pense qu'il souhaite rester au sein du PPE. Et je pense que le PPE ne souhaite pas le voir partir. D'une part parce qu'il pèse un petit peu électoralement, et d'autre part parce qu'il y a plusieurs partis, type la CSU allemande ou même chez les Républicains, qui sont proches ou pas loin de ces idées.
Réaction peut-être en plateau avec nos invités Alice Ekman, Jean-Louis Roca, Marc Semo. Marc, vous qui connaissez bien la Hongrie.
Orban est en train d'essayer d'inventer effectivement quelque chose de ces nouvelles droites extrêmes. Et voilà, je me demande, enfin, je pense qu'il attend, pour le moment, il veut rester dans le Fidesz, qui est dans le PPE, qui est aussi une protection, mais je n'exclurais pas qu'il devienne un de ces éléments mutants d'une recomposition droite-extrême-droite, et je pense que c'est ça son ambition, et c'est en ça que se passe en Hongrie est redoutablement inquiétant.
Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, il était à Rome pour une conférence
avec Marion Maréchal,
Salvini, etc. Salvini n'était pas là, mais il a fait quand même une photo avec lui. Donc, effectivement, l'union des droites, ça peut être son truc.
Jean-Louis Roca, Alice Eggman.
Bah, de mon côté, ce qui m'intéresse évidemment, c'est que la Hongrie est un peu un des exemples et qui est multiple à travers le monde de régimes qui sont démocratiques, mais qui d'une certaine façon regardent vers l'autoritarisme. Donc c'est en ça que ça peut être intéressant par rapport à la Chine, et même jusqu'à un certain point, on voit ça en Inde, considère le modèle chinois peut-être comme l'avenir du pays sur le plan politique. Donc ma question, comme pour la Chine, c'est: quel est le lien entre Orban, dont on critique, etc., et la population? C'est-à-dire, finalement, fondamentalement, pourquoi une partie sans doute importante de la population hongroise soutienne Orban? Parce que là, on est dans un système démocratique, on peut pas dire qu'il y a eu un coup d'État ou un parti unique, etc.
Antoine Malo,
ouais.
Je
vais essayer de répondre. mais effectivement, ultra populaire, les derniers sondages, c'est 51%, si de devait voter demain, ce serait 51% pour le Fidesz, 12% maximum pour les autres partis. Donc, effectivement, ultra populaire. Orban, c'est une population qui, alors, dire comme ça, mais qui est très patriote. C'est le message passe et lui, il l'entretient. Et en gros, redonner la fierté au pays. Il y a eu la crise des migrants en 2015 qui a beaucoup joué également. Orban en a instrumentalisé, il continue à l'instrumentaliser. Mais ça a fait peur à la population et voilà.
Et puis, il y a ce passé qu'on évoquait tout à l'heure. C'est 1920, le traité du Trianon, quand même, où on ampute,
deux tiers
du territoire. Magyar, ça, évidemment, ça reste largement dans l'imaginaire collectif.
C'est le traumatisme, on voit.
Alice Eggman.
Moi, je ne connais pas du tout la Hongrie, mais ce qui a fait tilt dans ma petite tête, c'est l'expression que vous avez utilisée, vision positive de l'histoire. Parce que finalement, beaucoup de pays utilisent l'histoire à des fins politiques. Beaucoup de pays ont des problèmes pour faire face à leur propre histoire, dans leur complexité et parfois dans leur dureté. Et puis, vision positive de l'histoire, moi, ça me rappelle donc la visite, bien sûr, toute comparaison gardée, parce qu'on est dans des contextes très différents, mais récemment, en octobre 2019 à Pékin, donc je me suis rendue à l'exposition en l'honneur des 70 ans de la création de la République populaire de Chine. Et donc, il y avait, oui, une vision très positive du grand bond en avant, de la révolution culturelle et d'autres événements qui sont en fait de moins en moins discutés en Chine. Donc, je ne voudrais pas faire de parallèle hâtif entre la Hongrie et la Chine, bien sûr, mais c'est vrai que cet engouement pour les visions positives de l'histoire, mais aussi visions positives du journalisme, puisqu'on a aussi un appel, en tout cas en Chine, à développer un journalisme positif qui raconterait finalement des belles histoires. Ça, c'est une tendance à noter et qui touche pas mal de pays en ce moment.
Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir justement, parce qu'il y a eu une petite séquence là cette semaine autour justement de journalistes. Merci Antoine Malo, je rappelle que vous êtes grand reporter au JDD et qu'on peut retrouver vos articles sur le site du JDD notamment. Merci beaucoup.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Tele van a tököm az akupunktúrával, magyar férfi tritónusz helyettesítést vállal. Én így kedve nézem a fiatalabbakat, milyen jó számokat írnak, milyen jó erőben vannak. Fáj a fejem és szúr a szívem, elhallgat a zene, ha feltűnök a színen. A fürdőkádamban a hadihajók úsznak, és a matrózok rajtuk mind oroszul dalolnak. Én egy izzadva lihegő országban élek, ahol mocsárban tocsogva telnek az évek, és hiába...
Voilà, avec ce titre hongrois, sélectionné par notre ami Benjamin Hu. Alors, je vais essayer de prononcer correctement le nom de cet artiste, Szabó Benedek. Je pense, voilà, c'est ça. On mettra évidemment les références sur la page de Culture Monde. Après la Hongrie, place à la Chine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Avec ce pouvoir chinois qui fait toujours face à cette crise sanitaire majeure, avec un bilan qui s'élève maintenant à un peu plus de 2000 morts en Chine continentale, mais nulle crainte, évidemment, le régime est totalement mobilisé.
Au nom du comité central du parti, je tiens à vous exprimer un grand respect et une sincère gratitude, ainsi qu'à tous les travailleurs médicaux qui sont en première ligne dans la lutte contre l'épidémie. Battons-nous ensemble, nous finirons par gagner.
Voilà, c'était Xi Jinping le 10 février dernier pour évoquer cette crise sanitaire, mais aussi crise politique, diplomatique, économique, sociale. Alice Eggman et Jean-Louis Roca sont nos invités, nos partenaires du Monde avec vous, Marc Sémon, comme tous les lundis. Marc, en début de semaine, l'agence Chine Nouvelle a fait savoir que les autorités envisageaient de repousser la session plénière du Congrès. C'est rarissime et ça donne un tout petit peu une idée de la crise politique qu'on est en train de vivre en Chine, Marc?
C'est une vraie crise, et les grandes catastrophes naturelles sont souvent des révélateurs. Alors la question, c'est est-ce que Covid-19, le coronavirus, est-ce qu'il sera le Tchernobyl du rêve chinois que veut incarner le président Xi Jinping, qui dispose d'un pouvoir sans équivalent depuis Mao? Alors, l'apparente force du régime lui a permis d'imposer la quarantaine à plus de 60 millions de personnes, de prendre des mesures drastiques de lutte contre l'épidémie, qui apparemment ont été plus ou moins efficaces, mais cela ne doit pas faire illusion. Et surtout, les maux du système sont mis en évidence par cette crise. Alors, il y a d'abord la corruption. Depuis longtemps, le régime avait essayé de lutter contre le commerce des animaux sauvages pour la nourriture, hein, qui est le berceau du virus. Ça montre, ce qui s'est passé ces derniers mois, que cela n'a pas marché. Ensuite, il y a l'obsession de la stabilité sociale, qui a amené les autorités à dissimuler pendant des semaines la réalité de la nouvelle maladie, malgré les cris d'alarme de certains médecins de Wuhan, dont le docteur Li Wenliang, qui a été arrêté pour avoir dit la vérité, qui est mort du virus, et qui est devenu un héros sur les réseaux sociaux. Et justement, le contrôle de l'information n'a fait qu'amplifier toutes les rumeurs. Les réseaux sociaux continuaient, ça cristallisait l'indignation de l'opinion face au pouvoir, d'où un durcissement de la répression avec l'arrestation de figures de premier plan de l'opposition. Et le fait que la principale réponse du régime à cette situation exceptionnelle soit celle d'un renforcement des contrôles et des mesures restrictives des libertés est quand même angoissant. Et là aussi, on voit ce qu'est réellement le régime de Xi Jinping.
Voilà, le décor est posé, Marc Semo. Alors, c'est difficile de évidemment passer à côté de l'expression que vous avez utilisée. Je pensais la garder un petit peu de côté, mais du coup, comme vous l'avez lâchée...
Elle n'est pas de moi. Hein,
absolument, non, elle n'est pas de vous. Il y a plusieurs observateurs qui ont évoqué effectivement cette possibilité, le Tchernobyl chinois, c'est-à-dire avec cette idée, au fond, que... comme à l'époque, Tchernobyl avait révélé aussi les failles de l'URSS, et donc d'une certaine manière peut-être aussi précipité sa chute. Alice Ekman, est-ce que le coronavirus et le Tchernobyl chinois, allons-y tout de suite avec vraiment le...
On joue au cœur du débat.
Allez, Alice Ekman.
Elle révèle, c'est une crise, je suis entièrement d'accord avec Marc Semo, évidemment. Cette crise révèle les failles du système chinois de l'extérieur. Vu de l'extérieur, ici, on les voit bien, bien sûr, en termes de gestion de l'information, gestion des tensions internes, gestion aussi de l'économie en une certaine mesure. Mais de l'intérieur, la visibilité est moindre. Et donc... je pense aussi qu'il faut prendre en compte aussi les moyens de communication, de propagande du parti aujourd'hui, qui sont très fortes. Alors certes, c'est des moyens qui sont déployés de manière modulable finalement. Et il y a eu un petit peu d'ouverture très brièvement autour du cas Li Wenliang, qui en effet a généré beaucoup d'émotions. Mais ensuite, la propagande et la censure a repris ses droits de manière assez structurée, assez cadrée. Et on se rend compte parfois quand on échange, même avant bien sûr la crise du coronavirus, on se rend compte que certaines informations qui sont très largement discutées et débattues, des cas de dissidents ou des cas particuliers de certaines crises locales ou nationales, qui sont bien connues en France, aux États-Unis et ailleurs, finalement sont peu connues en Chine. Et ce n'est pas toujours par manque de volonté, c'est que la nature du débat et la nature des discussions est très différente. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'aujourd'hui, Xi Jinping mobilise de manière très massive cette machine de propagande vers l'union nationale. Alors, bien sûr, on pourrait dire quelle union nationale dans le contexte actuel, mais des messages qui sont répétés ainsi, avec aussi finalement un rattrapage a posteriori de ce qu'on pourrait dire certaines gaffes, certaines bourdes. Le cas Li Wenliang a été érigé en héros ensuite par le Parti communiste chinois, un héros populaire, et ensemble menons cette guerre populaire contre le virus. Alors d'ici, on a très peu de visibilité sur finalement la réception. Au sein de la population. Clairement, il y a eu bien sûr des exaspérations très, très nombreuses qui sont exprimées sur les réseaux sociaux à un moment. Mais l'impression générale que j'ai aujourd'hui, après plusieurs semaines d'analyse, c'est qu'en fait, cette crise va consolider les bonnes vieilles habitudes du parti en termes de communication, mais aussi en termes de structuration et de gestion de crise. Par exemple, la construction de l'hôpital temporaire de Huoshanshan à Wuhan, très vite, le parti a décidé de créer une branche temporaire du parti au sein de cet hôpital. Donc ça, c'est un exemple, mais qui est intéressant de voir. Mmh. Et ensuite, aujourd'hui, le parti mobilise l'ensemble des cellules du parti à différents échelons pour cette guerre contre le virus, mais aussi pour déployer et divulguer et répandre les messages clés et les éléments de langage.
Donc non seulement, pour vous résumer, non seulement vous n'y croyez pas, mais vous pensez que ça va encore plus renforcer le pouvoir de Xi
Jinping. Il y a une dimension humaine qu'on ne mesure jamais dans ces cas-là, qui est très difficile. Et puis, il faut bien noter aussi qu'il y a un ressentiment à l'intérieur du parti envers Xi Jinping qui s'agrège depuis déjà pas mal de mois et d'années dans le cadre de la campagne anticorruption.
On va y revenir. Jean-Louis Roquin.
Alors, je pense pour
le Tchernobyl chinois.
Alors, pour comprendre d'abord ce qui est, moi, en tant que chercheur, je vais faire un petit peu plus compliqué que ça, pour finir par répondre à votre question. Mais je pense que d'abord, il faut éliminer cette idée que l'on aurait un espèce de pouvoir total sur la population, une population finalement qui réagit très facilement aux manipulations, etc., etc. Je pense qu'il faut prendre au sérieux l'opinion publique. Et ce qui est très intéressant, c'est que de mon point de vue, je vais peut-être vous étonner, mais rien n'a changé finalement. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois la plupart des gens critiques, plein de choses, et ça renvoie aux critiques qu'on a pu entendre dans le passé sur les conflits du travail, sur les conflits vis-à-vis de la pollution, des conditions de vie, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que les Chinois contestent sans arrêt. Mais ce qu'ils ne contestent pas, c'est le contrat social dont vous parliez au tout début, c'est-à-dire cette idée que le parti doit rester plus ou moins au centre du système politique parce que c'est lui qui a, bah, ma foi, apporté la prospérité à la plus grande partie de la population, qui a apporté aussi le retour d'une certaine fierté, on pourrait dire, d'être chinois, l'affirmation de la Chine sur la scène internationale, etc., etc. Donc, si vous voulez, l'opinion publique est complexe en Chine. À la fois, ils sont très critiques vis-à-vis du parti, mais en même temps, il y a très peu de gens qui voudraient remettre en cause le système politique pour mettre en place, par exemple, un système d'élection. Parlons des choses un petit peu très directement. Si vous voulez, c'est comme en France, les gens qui critiquent la démocratie et comprendraient pour obligatoirement des gens qui veulent détruire la démocratie. Non. Beaucoup de gens sont pour plus de liberté d'expression, etc., pour que le système, une constitution, mais évidemment, par exemple, donnant plus de poids aux voix des gens qui protestent, etc., sans obligatoirement tomber dans un système de pluripartis.
Donc vous pensez au fond que le désir de démocratie n'est pas si fort que cela en Chine. Il y a évidemment des mouvements, il y a des militants pour les droits de l'homme, etc., etc., mais l'aspiration à la démocratie, au processus électif, n'est pas si fort que ça.
C'est-à-dire que si vous parlez, évidemment, j'ai pas parlé avec tous les Chinois, mais quand vous discutez quand même avec, ça fait quand même pas mal de temps que je discute avec les gens, très très peu de gens vous disent en Chine, y compris les plus critiques et qui interviennent sur les réseaux sociaux, y compris les gens qui participent aux mouvements sociaux, vous disent tous, oulala, les élections très compliquées, trop de paysans, pas assez de conscience politique. Et c'est une vieille idée d'ailleurs. On retrouve ça déjà au début du siècle, au début du 19e siècle, où quelqu'un comme Liang Qichao, le philosophe, disait, c'est super la démocratie, mais c'est pas encore tout à fait pour la Chine, il faut d'abord se développer. Donc, je voudrais répondre aussi à la question un petit peu...
Et puis ensuite, on va faire tourner la parole, mais allez-y.
Absolument. Mais la question des failles, quand même, qui est importante, c'est-à-dire que on voit aussi sur les réseaux sociaux ou dans la presse, ou quand on discute effectivement avec un certain nombre de Chinois, on voit que les gens disent effectivement d'une certaine... Y compris même dans les journaux français, d'ailleurs, on dit, oui, il y a des failles, mais il y a des éléments positifs. C'est-à-dire, quel pays aurait pu boucler une ville de cette façon là, qui aurait pu construire un hôpital en quelques
ça, ça nous a
moments.
Beaucoup impressionné ici, hein.
Et surtout, j'ajouterais quelque chose. Quand on parle de failles et de côté positif, il faut avoir des comparaisons. Avec quoi peut-on comparer ce que a fait la Chine? C'est-à-dire, est-ce que dans un pays démocratique comme l'Allemagne ou la France, on aurait fait mieux? On n'en sait absolument rien. Donc, faut être très prudent par rapport à ça.
Alice Ekman, j'ai vu que vous aviez un petit peu tiqué un moment sur la question peut-être de l'aspiration démocratique. J'ai voulu essayer de réagir. Et puis ensuite, on viendra à la question de la fragilisation ou non de Xi Jinping. Alice Ekman.
Oui, non, c'est juste que il y a une aspiration. Bon, c'est très difficile aujourd'hui de prendre acte, enfin de mesurer concrètement les volontés, les appels à la démocratie en Chine, parce que ces appels-là sont censurés, sont condamnés. Il y a eu des mouvements d'appels au développement, enfin en tout cas de reconnaissance du terme de valeur universelle et de défense de ce terme, par exemple par un think tank qui s'appelle UniRule, UniRule Institute of Economics. Donc c'était un think tank libéral, à tendance libérale économique, et donc il a été qui a été dissous et qui n'existe plus depuis un an. Donc il y avait des et par rapport en fait souvent si on compare les contextes, c'est amusant, même aller en délégation en Chine avec des collègues qui travaillent sur la Russie, on se rend bien compte qu'en fait la répression à la dissidence est beaucoup plus forte en Chine qu'en Russie, et donc dans ce contexte-là, l'expression d'avis contraire est de plus en plus risquée, non seulement à l'extérieur du parti mais aussi à l'intérieur du parti, même s'il y a des tendances, on dit souvent qu'il y a différentes factions au sein du parti. parti avec des tendances plutôt conservatrices et des tendances plutôt libérales. Aujourd'hui, en tout cas, les tendances, on va dire, libérales ont beaucoup de mal à s'exprimer. Moi, je ne les vois pas s'exprimer aujourd'hui et depuis 2013.
Marc Semaux et puis Jean-Louis Roquage. Marc Semaux.
Justement, le sort de la défunte Union soviétique, l'effondrement dû à la politique de Gorbatchev avait été le repoussoir du Parti communiste chinois depuis 89. Tiananmen, c'est aussi ça. Donc, je pense que le régime aujourd'hui a eu parfaitement conscience de ce précédent de Tchernobyl et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le parti fait bloc et pour lesquelles des mesures aussi drastiques ont été prises en verrouillant de partout. Parce que c'est quand même extrêmement dur, les réactions du pouvoir par rapport à ce qui se passe.
Oui, en fait, ça encourage à davantage de dureté. C'est-à-dire que Xi Jinping et l'ensemble, les dirigeants du parti depuis longtemps, mais Xi Jinping a fait référence au début de son mandat à Gorbatchev et à l'effondrement de l'Union soviétique en disant « nous n'avons pas été assez hommes ». Assez homme, nous n'avons pas été assez durs, c'est-à-dire, voilà, il faut être strongman, il faut être dur, droit dans ses bottes, il faut prendre des mesures face à des potentiels, voilà, des facteurs de risque, de déstabilisation potentielle du parti. Donc il y a deux facteurs, il y a à la fois un parti qui se consolide et qui appelle à l'autodiscipline, à l'autocritique, et il y a la CCDI, donc la commission de discipline, qui vraiment, là, est très stricte et vérifie la loyauté politique et idéologique de tous les cadres aujourd'hui. Aujourd'hui et depuis déjà plus de 7 ans. Puis il y a aussi la différence économique, c'est-à-dire que la situation économique de la Chine, même si nous sommes dans un contexte de ralentissement de la croissance depuis plusieurs années, la situation économique est bien meilleure aujourd'hui. On est dans un régime qui dispose de moyens économiques qui peuvent soutenir le maintenir au parti de manière beaucoup plus forte que ce n'était le cas à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc les contextes politiques et économiques sont très différents.
Jean-Louis Roquin.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait quand même un petit peu ce que peuvent penser les dissidents ou les constitutionnalistes par rapport à la question de la démocratie. Ils en sont effectivement aux questions de principe, les droits de l'homme, une certaine transparence, etc., etc. Mais il y a énormément de travaux, d'interviews de ces mêmes personnes qui critiquent le parti unique et qui vous disent, quand on aborde la question des élections, ils vous disent oulala, c'est-à-dire commençons par donner un certain nombre de libertés, de transparence, etc., avant de changer le système de parti unique. Et même les dissidents les plus radicaux, Lucien Roupaud par exemple, dans ses écrits, est très clair là-dessus. Ça doit être transitionnel, faut aller doucement, faut attendre que les paysans commencent à avoir conscience des gens, parce que le niveau, on pourrait dire politique, des Chinois est tellement bas qu'il faut les éduquer. Ça nous rappelle un petit peu le 19e siècle en France, où on disait bon, les paysans ne savent pas voter, etc., etc. C'est un peu dans cette optique-là. C'est pour ça que je pense que quand on parle de démocratie, de démocratisation en Chine, il faut parler par exemple des mouvements sociaux, qui est une façon de contester le pouvoir sans remettre en cause le pouvoir. Il faut parler du constitutionnalisme, qui est l'idée de faire une constitution, de protéger les droits fondamentaux des gens, sans obligatoirement passer à un régime pluriparti, et les principes des droits de l'homme, etc., etc. Donc, je ne dis pas que c'est possible de faire la distinction. Je parle que du point de vue des gens qui sont les plus critiques du Parti communiste, il y a toujours cette question du passage aux élections qui pose un problème fondamental.
Alice Ekman, la question de la responsabilité, parce que quand même si j'entends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, nous, on a une vision d'ici avec cette révélation de faille très importante qu'il faut peut-être un peu nuancer depuis l'intérieur. Il n'empêche qu'il y a quand même eu un stand de voix, et on l'a vu à travers les réseaux sociaux, à travers Weibo, qui ont critiqué la gestion pas parfaite, un peu tardive des autorités. Il faut évidemment trouver des responsables. Comment est-ce qu'on fait ? On voit bien que depuis le début de la crise, il y a d'abord une première chose qui est que les autorités centrales cherchent peut-être à déporter une partie de la responsabilité sur les pouvoirs locaux. Il y a eu là, cette semaine, un certain nombre de remplacements de dirigeants de la région de Hubei, le numéro 1 qui a été remplacé. Le secrétaire du PCC de la ville de Wuhan qui a été également remplacé. Donc on voit bien qu'il y a cette tentative, en tout cas, de déporter la responsabilité sur ses pouvoirs locaux. Est-ce que l'opinion est effectivement prête à accepter cette idée, en tout cas se laisser convaincre que finalement, oui, ce sont les pouvoirs locaux qui sont responsables de tout ça, sachant qu'il faut bien réaliser qu'en Chine, il y a une vraie rivalité, en réalité, entre les pouvoirs des régions et l'autorité centrale. Et puis ensuite, on verra ce qu'il en est du Premier ministre, qui lui aussi a été très mis en avant. Est-ce qu'il pourrait, pourquoi pas, servir de fusible ? C'est pas des choses complètement impossibles. En tout cas, chez nous, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, sur les deux options, sur la rivalité et ce déport de responsabilité vers les pouvoirs locaux, et ensuite, on s'occupera de Li Keqiang, le Premier ministre. Alice Ekman.
Oui, la question de la responsabilité est une vraie question depuis 2013, parce que Xi Jinping s'est beaucoup mis en avant, en fait. Par exemple, sur le projet Nouvelle Route de la Soie, il apparaît aujourd'hui responsable des succès comme des échecs de ce projet. D'autres projets, quasiment toutes les réformes, puisqu'il a créé aussi beaucoup de ce qu'on appelle les groupes dirigeants. Donc c'est des groupes de dirigeants du Parti communiste chinois qui s'occupent de certains dossiers et ils les président quasiment tous. Donc à ce moment-là, et à partir du moment où on l'affiche, et à partir du moment où vraiment il affiche aussi cette responsabilité dans la Constitution, et à partir du moment aussi où on ne connaît pas la durée de son mandat aujourd'hui, la responsabilité est forte, elle pèse sur ses épaules, et la manière dont il la gère est intéressante. Sur la crise du coronavirus, en effet, c'est une gestion avec une déportation sur les gouvernements locaux. Alors, c'est une vieille technique. Et les gouvernements locaux, disons que factuellement, cette déportation est inexacte dans le sens où, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, les gouvernements locaux sont davantage au service du gouvernement central. Donc, à la fois en bien comme en mal, mais c'est-à-dire qu'ils ont souvent peur de prendre l'initiative qui pourrait déplaire au gouvernement central, puisqu'il y a eu énormément de turnover bien avant la crise du coronavirus, il y a eu énormément de turnover à la tête des provinces, puisque Xi Jinping a beaucoup changé, en fait, les secrétaires du parti locaux, pour notamment nommer des fidèles et des proches. Donc, il y a eu énormément de changements à ce niveau-là, et des personnes beaucoup plus dociles, en tout cas qui prendront moins d'initiatives, ont été nommées, d'autant moins d'initiatives qu'elles avaient peur, encore une fois, d'être mises sous enquête dans la campagne, dans le cadre de la campagne anticorruption, lancée par la commission de discipline, qui est toujours en cours aujourd'hui, mais qui fait vraiment très peur. Donc, la crise du coronavirus peut aussi être interprétée dans cette dynamique, parce que quand un responsable du gouvernement local de Wuhan a pris la parole à la télé assez peu de temps après la révélation des informations de la présence d'un virus, il a expliqué vraiment que, en fait, il attendait des directives du gouvernement
central.
Qu'il
n'avait pas eu l'autorisation de Pékin, et voilà. Donc il n'avait pas parlé.
Mais ça, c'est totalement possible. C'est pas uniquement, à mon avis, pour se défausser. C'est-à-dire, d'un point de vue de la hiérarchie centrale locale,
qui
est
forte. Faut que ça monte avant que ça redescende.
Avant, même sous Crotinta, on disait, voilà, les provinces sont en compétition. Ça, c'est vrai. Mais aussi, elles s'émancipent du gouvernement central. C'est de moins en moins vrai. Ouais. Et elles ont aussi la pression du chiffre. Elles doivent donner des résultats, communiquer des résultats au gouvernement central, des chiffres qui soient bons en termes de maintien de l'ordre, de la stabilité, de développement économique, etc. Donc la pression est très forte. Alors ensuite, comment Xi Jinping gère ça? Oui, en effet, il y a eu ces allées et ces retours. Aujourd'hui, il est beaucoup plus présent dans les médias comme il est finalement d'habitude. Et puis, il y a encore une fois ce report vers le gouvernement local. Mais je pense pas que Li Keqiang servira de fusible, parce que c'est en général pas l'habitude. En tout cas, les premiers ministres servent moins de fusible en Chine qu'ailleurs. C'est toujours un appel à la stabilité, et je pense pas qu'il y aura beaucoup encore de turnover, à mon avis, au niveau local, mais au niveau central, je pense moins.
Jean-Louis Roquin.
Alors, j'ai beaucoup insisté sur ce qui n'avait pas changé, mais je vais insister maintenant, au contraire, sur ce qui a changé. Je trouve que, par exemple, ce qui se passe sur les réseaux sociaux est extrêmement important, parce que on n'a pas du tout un système, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire où on aurait plus de répression et donc moins de liberté, ou plus de liberté, moins de répression. En fait, on a une situation où on a à la fois beaucoup plus de censure et beaucoup plus de liberté sur les réseaux sociaux actuellement. On a vu ce qui s'est passé quand même, qui est très étonnant à propos du médecin quand même, où on a laissé quand même pendant un certain nombre de temps les choses évoluer. Aujourd'hui même, on a des critiques vis-à-vis de la propagande du gouvernement quant à un certain nombre d'infirmières enceintes, en tout cas une infirmière enceinte qui aurait continué à travailler, et les gens sont pas très contents et trouvent que c'est absolument scandaleux de mettre en avant ce genre de choses. Ce qu'il faut dire sur les réseaux sociaux aussi, il faut le rappeler, c'est-à-dire que les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour des raisons politiques sont une archi minorité en Chine. C'est-à-dire que si on considère que les réseaux sociaux, sur le plan politique, le contenu politique, on pourrait dire, des réseaux sociaux, c'est vraiment extrêmement peu de choses en Chine. Donc, pour avoir vraiment l'état de l'opinion publique en Chine, faut essayer de demander aux paysans, faut demander aux ouvriers, faut demander même à la classe moyenne qui s'occupe d'autre chose que de politique très souvent, ce qu'ils pensent de la situation. Et là, quand on regarde de ce côté-là, on a plutôt tendance à dire qu'il y a une espèce d'unité quand même de la Chine autour autour, alors évidemment, du nationalisme, d'une certaine fierté, la Chine est en guerre d'une certaine façon, et il considère que, bien évidemment, le parti a fait des erreurs, bien évidemment, le gouvernement a fait des erreurs, mais que aujourd'hui, il faut gagner la bataille, et d'une certaine façon, il faudra ensuite discuter de ce que l'on peut faire pour améliorer les choses. C'est-à-dire, critiquer le gouvernement, c'est pas seulement critiquer le gouvernement, c'est l'aider d'une certaine façon, on pourrait dire, à améliorer les choses. Donc, je crois que au niveau des problèmes, bien évidemment, je pense qu'il y a en même temps quand même aussi un changement d'attitude du gouvernement par rapport à ça. On a vu des choses hallucinantes. Le maire de Wuhan, quand même, qui vient s'excuser à la télévision. On n'avait jamais vu ce genre de choses. Quelqu'un qui est en activité encore. On a vu dans la presse chinoise, notamment dans Caixin, des articles qui expliquent que le gouvernement reconnaît avoir fait des erreurs et qu'il faut améliorer les choses et qu'on a bien fait, d'une certaine façon, de révéler un certain nombre de choses. Bon, bien évidemment, la censure continue, les deux journalistes citoyens ont disparu, etc. Mais c'est quelque chose aussi que l'on a l'habitude de voir en Chine. C'est-à-dire que ces gens-là sont utiles au gouvernement aussi, parce que c'est une façon de savoir ce que pensent les gens les plus critiques, on pourrait dire, dans la société. Donc, on les laisse parler. Ils sont aussi utiles pour un certain nombre de factions à l'intérieur du parti. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'unité à l'intérieur du parti. Il y a toujours des gens qui s'y opposent. Donc, les gens utilisent ces citoyens, par exemple, journalistes, dans leur lutte, les laissent parler. Mais parfois, évidemment, c'est un jeu difficile et complexe et dangereux. Ils peuvent être mis à la porte. Dernier point, ce qui m'amuse, c'est que il y a eu depuis quelques années beaucoup d'analyses sur la toute-puissance de Xi Jinping, comme quoi il était à l'égal de Mao, etc., etc. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cet élément. Je pense que c'est le symbole de l'unité, beaucoup plus que quelqu'un qui peut, pas personnellement, on pourrait dire, orienter les choses dans un sens ou dans l'autre. Il n'a pas du tout le pouvoir de Mao, il n'a pas du tout le pouvoir de Deng Xiaoping, qui a véritablement fait une révolution dans les années 70 et 80. Et je pense qu'effectivement, il est dans une situation aujourd'hui plus difficile. Mais finalement, c'est pas la question du pouvoir personnel qui, à mon avis, est important, mais c'est ce qui se passe parmi les 10, 20 ou 30 personnes qui décident un petit peu de l'avenir de la Chine.
Alice Ekman, sur ce point en particulier, Xi Jinping n'aurait pas autant de pouvoir qu'on le dit parfois.
Il ne faut pas aller dire ça aux quêtes du parti, parce qu'il voit souvent les choses différemment, parce que ce qui se passe, c'est la question, c'est la direction collégiale. Est-ce que la direction collégiale a disparu? Jean-Louis a raison de poser la question de cette direction collégiale, mais ce qu'on voit depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, c'est justement, si on regarde concrètement dans les institutions, un président qui se déclare personnellement en charge de quasiment tous les grands dossiers de politique intérieure, extérieure, et on le voit aussi en politique extérieure, quelqu'un de très engagé, très présent, qui effectue lui-même des visites bilatérales et multilatérales aux dépens de son premier ministre, y compris dans des visites en Europe par exemple. Donc on a en tout cas une hiérarchie du pouvoir qui est particulière. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence et de ressentiment anti-Xi Jinping, mais de fait son pouvoir aujourd'hui est très fort. En tout cas son pouvoir en tant que secrétaire général du parti est très fort. Et ce qui est très important de voir quand même à Xi Jinping, c'est que sa personnalité a beaucoup surpris, en fait. Parce qu'au sein du parti, on gravise les échelons en faisant en général profil bas. Et on se révèle une fois qu'on est au pouvoir. Et il s'est révélé à la fois très ambitieux dans sa politique intérieure et extérieure, mais aussi très confiant en lui. Lui-même d'ailleurs appelle aux quatre confiances, confiance de la Chine dans son propre système politique, dans sa voix, dans sa culture et de manière générale aussi dans sa dimension internationale. Mais lui-même semble avoir une grande confiance en lui, une foi, parce qu'il parle de la notion de foi. Il a foi dans son propre destin qui est de conduire le renouveau de la nation chinoise. Et ça, c'est apparent. C'est apparent dans sa prise de décision, dans sa volonté aussi de finalement de gérer beaucoup de choses. C'est une force et aussi une faiblesse, comme on l'a souligné auparavant, parce qu'il apparaît responsable de tout, et finalement parfois aussi responsable des crises qui apparaissent.
La foi qui évidemment fait référence à la religion, et c'est l'une des choses que vous développez dans votre livre Rouge Vif, Alice Ekman, c'est-à-dire que l'organisation du Parti communiste chinois aurait quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut retrouver dans des organisations religieuses. C'est l'un des éléments que vous développez dans votre livre, Alice Ekman.
Oui, avec nuance, parce que bien sûr, le Parti communiste chinois interdit à ses membres d'être membres d'une religion. Toute religion extérieure, parce que ce serait incompatible justement avec la foi du Parti communiste, la foi marxiste, même si bien sûr ce terme est discuté et dans les faits beaucoup de personnes aussi pratiquent par ailleurs.
Jean-Louis Roca, et puis ensuite on va faire une pause en dessin. Jean-Louis Roca.
Oui, alors moi, on ne me fera pas croire que dans un système politique fermé comme la Chine et autoritaire, quelqu'un peut exprimer ses propres visions des choses. C'est-à-dire que tout, effectivement, ce discours de propagande que l'on entend sur moi, je, c'est un discours qui est construit à l'intérieur du parti parce qu'à un moment donné, en 2012, on a dit, il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait un vrai chef, il faut qu'il y ait cette unité nationale et cette unité du parti qui soit exprimée par un symbole extrêmement fort, donc une personnalité qui va nous représenter. Mais entre ce personnage construit par l'appareil du parti et l'idée qu'il y a un pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'il y a une personne en Chine qui puisse décider tout seul d'un certain nombre d'orientations, ça me paraît complètement contradictoire avec tout ce qu'on dit par ailleurs justement sur le Parti communiste qui est une organisation, on pourrait dire totalitaire, autoritaire. Comment dans une telle organisation on pourrait avoir une personne qui tout d'un coup dit « Ah moi je pense que, ah ben oui, moi je crois que c'est quand même absolument incroyable.
C'était pas le cas avec Staline et Mao.
Ah bah oui, mais on n'est plus du tout dans le même dans le même cadre. On n'est absolument pas dans la même situation.
Ça peut se reproduire.
Bah non, parce que on n'est absolument pas dans la.
On est déjà en Russie avec Poutine, qui a un pouvoir dont que même Staline d'une certaine façon n'avait pas.
Bah c'est pas du tout ce que disent les spécialistes de la Russie. C'est beaucoup plus complexe. Absolument pas. Il y a des élections, il y a un parti, il y a une opinion publique, etc.
Renommée pour leur équité.
Je vais dire. Faut arrêter de prendre le peuple, quels que soient les pays, pour des imbéciles. Il y a des liaisons, il y a des rapports. Aujourd'hui, on n'est pas dans un système de pouvoir charismatique comme on a pu voir à l'époque de Mao. Pas du tout.
Le culte de la personnalité existe quand même en Chine aujourd'hui. En tout cas, le grand livre blanc de Xi Jinping a été édité en plus de 15 langues et distribué à tous les fonctionnaires. Xi Jinping a appelé à Liang Shuizhou, comme tu sais, à réviser deux fois sa parole et la mettre en application une fois. Donc la parole de Xi Jinping vaut de l'or au sein de la fonction ensemble de la fonction publique, et donc il est une figure vraiment dont le culte est entretenu aujourd'hui selon des méthodes qui rappellent celles qui sont entretenues sous le maoïsme.
Oui, mais il ne faut pas confondre encore une fois le parti qui décide d'avoir une figure on pourrait dire d'unité forte avec ce qui a pu se passer à l'époque de Mao. C'est-à-dire, je suis désolé, mais il n'y a pas de culte de Xi Jinping dans la population chinoise.
On a compris.
C'est-à-dire il y a des critiques extrêmement fortes vis-à-vis de Xi Jinping à l'heure actuelle qu'on ne pouvait absolument pas entendre, par exemple, à l'époque de Mao.
On comprend donc l'opposition qu'il y a. Vous n'avez pas la même analyse sur ce point-là, Jean-Louis Roca, Alice Ekman. On va reprendre évidemment nos discussions dans un très court instant. Mais d'abord, notre bulle cartooning du vendredi. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Avec l'association Cartooning for Peace, bien sûr, comme chaque vendredi. Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Et alors que Pékin fait face à une crise interne, c'est un dessin ce matin qui se penche sur le nouveau rapport de force qui s'installe entre la Chine et les États-Unis, Hélène.
Oui, la crise du coronavirus rabat les cartes de la guerre commerciale que les deux premières puissances mondiales se livrent depuis quelques années. Alors que l'économie chinoise tourne au ralenti, Donald Trump doit se frotter les mains, lui qui a toujours considéré que l'empire du milieu représentait un obstacle à son projet Make America Great Again. C'est ce qu'a voulu illustrer le Mexicain Dario Castilleros avec cette caricature publiée le 3 février sur la plateforme en ligne Kaggle Cartoon. Sur ce dessin, la Chine est incarnée par un grand dragon rouge, une représentation classique, mais ce dragon est entravé et fait grise mine. Non seulement un masque sanitaire empêche l'emblème majestueux de cracher son feu, faire une démonstration de sa puissance, mais en plus, Donald Trump tourne autour de lui pour lui ligoter les pattes. À ce rythme, le dragon pourrait perdre l'équilibre. Alors le président américain chercherait-il vraiment à profiter de la faiblesse de son concurrent pour l'enfoncer? C'est en tout cas ce que dénonce Pékin. Au début du mois, la Chine a accusé Washington de réagir de manière excessive et inappropriée à cette crise. Lors d'une conférence de presse en ligne avec des médias internationaux, Wang Xiaoying, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a reproché aux États-Unis d'avoir été, je cite, les premiers à évacuer le personnel de son consulat à Wuhan, à suggérer le retrait partiel de son personnel d'ambassade et à imposer une interdiction d'entrée sur le territoire aux voyageurs chinois. Pour Pékin, cela ne fait aucun doute, Washington cherche à semer la panique et saper un peu plus son ennemi. Cela étant dit, les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que le mastodonte chinois s'effondre complètement. Et l'administration américaine en a parfaitement conscience. Si la crise persiste, le coronavirus pourrait contaminer son économie. Par exemple, la semaine dernière, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Robert O'Brien, a reconnu que l'épidémie pourrait avoir un impact négatif sur l'accord commercial conclu entre les deux puissances le 15 janvier dernier. Un dragon affaibli vaut donc mieux qu'un dragon à terre.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin donc qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Alice Ekman, Jean-Louis Roca, Alice Ekman, peut-être réaction autour de ce dessin. Et j'ajoute peut-être, je le disais tout à l'heure en introduction, que cette semaine il y a aussi eu une affaire autour d'expulsion de journalistes américains suite à une tribune dans le Wall Street Journal dans lequel on évoquait, on parlait de la Chine comme étant l'homme malade de l'Asie, qui fait référence à une vieille expression du 19e siècle qui n'a pas du tout été appréciée du côté de Pékin. Alice Ekman.
Oui, ben on retrouve les rapports de force préexistants avant la crise, c'est-à-dire des tensions très fortes, très vives entre Washington et Pékin à différents niveaux et qui se manifestent finalement à chaque événement et aujourd'hui encore plus. Et en même temps, on retrouve aussi des preuves de rapprochement entre la Chine et la Russie. Parce que la Russie récemment a pris aussi des mesures pour protéger ou fermer son territoire à une partie de la population chinoise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la réaction chinoise, qui est très différente de la décision suite à la décision des États-Unis de faire de même beaucoup plus tôt. Quand on lit le communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il dit que la Russie a pris des mesures tout à fait compréhensibles. Que la Russie a déjà manifesté son soutien à la Chine et de fait Vladimir Poutine a indiqué que la Chine a pris des décisions vigoureuses, décisives et très importantes pour la gestion de la crise. Mais en tout cas, il a déclaré que de son point de vue, alors il n'a pas détaillé, mais il a déclaré que l'approche de Xi Jinping, enfin en tout cas que l'approche de Xi Jinping vis-à-vis de cette crise est tout à fait vigoureuse et décisive. Ça, c'est un qualificatif que Vladimir Poutine a employé, que je ne partage pas, mais voilà l'état des appréciations. Et par ailleurs, le Pakistan soutient la Chine de manière publique au Parlement, etc. C'est-à-dire qu'on voit un peu l'état des lieux des relations bilatérales, mais aussi multilatérales, avec un optimisme de la Chine assez fort à l'OMS aujourd'hui. Pour la qualification de la crise et de la diffusion de la crise. Et on a aussi une Chine d'un autre côté qui voit aussi la main des forces occidentales hostiles, c'est-à-dire ces forces qui voudraient que la Chine s'effondre ou ces agents de l'étranger qui manipuleraient une partie aussi de la population à l'intérieur de la Chine pour critiquer le pouvoir. On est vraiment aussi dans cette rhétorique-là, au sein de la Chine, au sein du parti, et donc vers, je pense, aussi une Chine qui compte les points. C'est-à-dire quel gouvernement se comporte comment dans cette crise du coronavirus, il compte les points au niveau national, mais aussi au niveau local. C'est-à-dire quel homme politique, quelle institution, quel chercheur dit quoi et qui et quand,
et quel
moment.
Quoi, et donc, et vraiment, de ce point de vue-là, la France a fait visiblement ce qu'il fallait pour apporter une aide substantielle à la Chine.
Mais c'est aussi la manière dont c'est perçu, dont tout cela est perçu.
Bien visiblement, parce qu'on a été très, très remercié, ça a été assez, assez clairement
de façon ostentatoire.
Merci beaucoup, Marc Semo. On a remercié très vigoureusement Paris depuis Pékin.
Et parfois des propos officiels du gouvernement français sont repris par l'ambassade de Chine en disant, vous voyez, la Chine agit bien, etc. Il y a vraiment aussi une guerre de communication qui est en place aujourd'hui, avec une volonté de positionner la Chine comme un exemple dans la gestion de crise, mais aussi comme ayant des moyens de gérer cette crise. Par exemple, la Chine souligne qu'elle a l'intelligence artificielle, les drones, le big data, toutes ces capacités de nouvelles technologies qui permettent de gérer la crise de manière efficace.
Jean-Louis Roca.
Oui, je pense que le gouvernement chinois surjoue, évidemment, autour de cette question du Wall Street Journal. C'est évident que tout ce qui se dit aux États-Unis va plutôt dans le sens du gouvernement chinois. C'est-à-dire, plus le gouvernement chinois est attaqué par les Américains, plus c'est bon pour le gouvernement chinois, parce que précisément, il peut utiliser la fibre nationaliste. Le pire pour le parti, ça serait de dire que tout le monde adore la Chine et considère que ce qui se passe en Chine, c'est fantastique, etc. Parce que justement, toute la politique aujourd'hui, d'une certaine façon, de rattrapage du mois de latence consiste justement à dire dire, regardez, nous, maintenant, on fait ci, on fait ça, les hôpitaux, etc., etc. Si les gens disaient, oui, c'est très, très bien ce que fait la Chine, ça n'irait pas, évidemment, dans le sens du gouvernement, puisque aujourd'hui, cette idée que la Chine est en guerre et qu'on doit tous être unis pour lutter contre ce fléau est à la base, je dirais, de la protection, disons, de l'autoprotection du système politique chinois. Ce que je voudrais mettre aussi peut-être en avant par rapport à ça, c'est on a tout à l'heure on parlait de la face religieuse du gouvernement chinois, enfin du système politique chinois. On pourrait aussi parler de la face religieuse du système démocratique, c'est-à-dire que on voit bien qu'un personnage comme Trump est absolument incontrôlable, c'est-à-dire qu'il raconte absolument n'importe quoi vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis de la Corée du Sud. Je ne sais pas si vous avez vu où il a expliqué que c'était un scandale de donner des prix de cinéma aux films Parasite et que ça devait être des films américains qui devaient, etc. Enfin, il va dans le si tu veux, son discours hyper nationaliste américain, là aussi, qui est incontrôlable, évidemment, et saisi brutalement et immédiatement par le gouvernement chinois à son propre jeu. Et c'est vrai qu'il y a tout un délire, disons, autour de la question de la déstabilisation, etc., etc. Mais en même temps, quand on lit tout ce que écrivent sur la Chine les néoconservateurs, et d'ailleurs le papier sur le Wall Street Journal est une émanation un peu de ce genre d'idéologie, où on considère que la Chine est un pays complètement malade, pourri, gangréné par la corruption et qui va s'écrouler. Discours que l'on entend depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Effectivement, on comprend aussi d'une certaine façon les réactions outrées du gouvernement chinois et de la population chinoise qui, eux, ne supportent pas non plus ce rappel au 19e siècle et à l'époque coloniale.
Ce que c'est beau, Nina Simone, qui aurait eu 87 ans aujourd'hui, raison pour laquelle on a eu envie de diffuser ce morceau qui est peut-être l'un de ses plus beaux morceaux, qui reprend des passages différents de la comédie musicale Air de la fin des années 60. Merci infiniment à nos invités. Alice Ekman, je rappellerai votre ouvrage qui est paru très récemment aux éditions de l'Observatoire, Rouge Vif, l'idéal communiste chinois, dans lequel vous vous demandez au fond ce qu'il y a de communiste aujourd'hui dans ce régime chinois. C'est vraiment un livre absolument passionnant, je le conseille aux auditeurs. Jean-Louis Roca, un grand merci d'avoir été avec nous également ce matin. Et Marc Zemo, on se retrouve vendredi prochain.
Eh oui.
Bon, on a encore quelques secondes, petite remontée avec ce chef-d'œuvre de Nina Simone. Allez, on y va.